Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on m'entend bien. Parfait. Je suis David-Pierre Duccelli, chargé de mission à Cités Unies France. J'ai le plaisir de co-organiser cet atelier. Merci beaucoup. Atelier dédié aux questions climat et action internationale des collectivités territoriales. Donc je suis personnellement en animation de la mission climat au sein de Cités Unies France, mission climat présidée par Léonore Monconduit, maire de Poitiers, qui préside du coup cette séance et à qui je laisse donc la parole pour un mot d'introduction.
Merci beaucoup David-Pierre, bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à 9h pour cet atelier de la mission climat. Effectivement, donc je suis la maire de Poitiers et présidente de la mission climat. Le climat étant un enjeu fortement approprié par Cités Unies France depuis plusieurs années. Les objectifs que nous partons à travers cette mission climat, c'est d'abord d'assurer la prise en compte générale des enjeux climatiques dans les actions de Cités Unies France, mais au-delà de ça, dans les politiques internationales portées par les collectivités adhérentes de Cités Unies France, avec plusieurs ambitions. D'une part, renforcer notre appropriation collective des enjeux climatiques, d'autre part valoriser les initiatives qui existent déjà, innover ensuite pour les outils qui manqueraient, et je sais que David Pierre fera référence à un moment aux outils que nous sommes en train de développer, et puis nous inscrire dans les plaidoyers internationaux portés sur ces enjeux-là au nom des collectivités territoriales, en particulier les COP. On aura aussi un petit point d'étape sur le paysage dans lequel nous nous situons aujourd'hui. Lorsqu'on parle urgence climatique, il y a bien nous cherchons bien à englober l'ensemble du spectre, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'enjeux climatiques, nous sommes face à plusieurs enjeux. Le premier, bien sûr, c'est de tout faire autant que possible pour réduire notre impact carbone et donc réduire le changement climatique et ses impacts. C'est donc l'atténuation. Mais aussi, et je dirais de plus en plus, nous portons un plaidoyer et nous valorisons, nous tendons à renforcer les actions en faveur de l'adaptation au changement climatique, à ses effets qui ne sont plus à démontrer malheureusement en France comme ailleurs, ce qui est aussi, me semble-t-il, une opportunité pour aller vers plus de réciprocité. C'est un enjeu qui me tient à cœur personnellement. Les catastrophes, les évolutions, les transformations profondes que connaissent nombre de nos territoires partenaires du fait du changement climatique sont sans doute les transformations profondes que nous connaîtrons dans nos territoires demain. Et à l'inverse, les catastrophes ou les événements forts que connaissent nombreuses collectivités en France aujourd'hui même sont peut-être déjà connus ou seront peut-être déjà connus par nos territoires partenaires demain. Et donc il y a indubitablement de nombreux échanges de pratiques et d'approches à partager autour de la manière dont nos collectivités, nos territoires s'adaptent au changement climatique. Donc c'est bien l'ensemble du spectre que nous cherchons à couvrir et à renforcer avec cette mission climat de Cités Unies France. Aujourd'hui, l'objectif de cet atelier, il est double. Il est d'une part de faire un point d'étape sur où en sommes-nous, sur la prise en compte internationale des enjeux climatiques, notamment au regard des COP qui sont des rendez-vous annuels qui rythment un petit peu la coopération, en tout cas les espaces de négociation internationale sur les enjeux climatiques. Donc ça, ce sera la première partie, notamment grâce à Climate Change. Je reviendrai ensuite sur nos intervenants. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir balayer assez largement le spectre de toutes les initiatives qui existent en faveur de l'appropriation des de l'appropriation de l'action internationale en faveur du climat par différents niveaux de collectivités ou différents réseaux, avec des témoignages donc de collectivités de différentes échelles, mais aussi par exemple un témoignage sur un réseau de maires engagés en faveur du climat, et puis une question sur l'accès au financement. Donc l'idée, c'est que ce soit un petit peu un panorama aussi pratique que possible, je l'espère en tout cas, pour que vous puissiez piocher des éléments qui vous intéressent pour vos propres pratiques. Et puis il y aura bien sûr deux temps d'échange pour pouvoir poser vos questions si vous en avez à nos intervenantes et à nos intervenants. D'ailleurs, je remercie l'ensemble des intervenants qui ont fait le déplacement et qui sont présents avec nous ce matin. Romain Crouzet, directeur général de Climate Change. Aurélie Lemeur, directrice de Grenoble Ville Ouverte. Emilio Piriz, chargé de mission de la région Sud. Cécile Rémion, chargé de coopération internationale pour la métropole de Nice. Et Florent Gallois, coordinateur de projet d'Expertise France. Et je remercie également... j'allais oublier quelqu'un. Merci Carlos de Freitas, directeur exécutif du Fonds mondial pour le développement des villes. Pardon, et merci. Et puis je remercie David-Pierre Duccelli pour la coordination de la préparation de cet atelier au sein de l'équipe de Cités Unies France, à qui je vais laisser la parole. Merci beaucoup. je crois que la première partie, pardon, va être donc non, je sais d'ailleurs, la première partie va être prise en charge par par Romain Crouzet, donc directeur général de Climate Change. Je souhaite saluer un petit élément, le fait que Climate Change se saisit depuis très longtemps des enjeux climatiques, comme son nom l'indique, mais qu'à moins d'une heure de ma part, vous vous saisissez aussi de plus en plus des enjeux liés à la biodiversité. Et il me semble que c'est une direction dans laquelle nous aurions intérêt à tendre aussi, à Cités Unies France, à considérer que la transition écologique, ce n'est pas que le climat, mais que la biodiversité mérite aussi notre attention du fait de l'urgence de la situation.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mais du coup, sans plus de transition, j'invite Monsieur Romain Crouzet, donc directeur général de Climate Change, à nous faire cette présentation de contextualisation générale et de lien avec l'échéance qui arrive, la prochaine COP à Bakou. Merci beaucoup.
Merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ok, c'est moi qui zappe. Non, c'est bien. Donc, effectivement, juste pour rebondir sur votre mot à l'instant, on se mobilise aussi, nous, de plus en plus sur les questions biodives et c'est intéressant aussi de voir comment on travaille ensemble, et notamment avec Cités Unies France. On était il n'y a pas longtemps à Bordeaux, où Virginie Rouquette, la directrice de Cités Unies France, est venue à modérer toute une table ronde qu'on organisait à l'hôtel de ville de Bordeaux. Donc, il y a vraiment un fort intérêt. Et là, nous-mêmes, on est aussi assez sous pression, puisqu'on prépare également notre propre participation à la COP 16 de Cali, qui a commencé. Mais pour une partie de notre équipe sera présente à partir de la semaine prochaine, avec plein d'activités hyper intéressantes. Donc c'est vrai qu'on est peut-être une des rares organisations qui essaie de transiter à la fois dans cette sphère du climat et de la biodiversité, de la conservation. De l'extérieur, ça paraît évident, le lien paraît évident, mais c'est quand même des mondes très cloisonnés. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais pour revenir à nos moutons, et je pense qu'on est déjà un petit peu en retard, j'ai 10 minutes pour présenter les enjeux de la COP. Il y en a eu 29. Comme son nom l'indique, c'est la 29e, et de voir un peu le rôle des collectivités et comment, en tout cas sur l'action climat, comment ça évolue. Donc c'est pas une mince affaire. Je vais plutôt vous donner quelques éléments de réflexion, quelques orientations, vous renvoyer vers d'autres choses, et puis derrière, après, il y aura aussi des panélistes hyper intéressants avec des actions plus précises et des réseaux de villes qui font des choses très intéressantes sur le climat notamment. Donc vraiment, pour les tracer les grandes lignes, je vous apprends rien. Les émissions mondiales continuent à augmenter. Et là, je vais vous présenter des données relativement récentes, notamment condensées dans une publication qu'on a sortie il y a un an, un peu moins d'un an, et aussi quelques données de 2024 qu'on a pu récupérer pour cette présentation. Donc on est sur des émissions annuelles de CO2 de plus 8% depuis l'accord de Paris. Juste en 2023, par rapport à 2022, plus 1,6%. Donc voilà, la phase, le Covid, on va changer la manière de faire, le monde d'avant, le monde d'après, bon, c'est derrière, ça paraît loin, quand on y réfléchit, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en termes d'émissions, c'est loin derrière. Vous avez là les hors usage des sols, donc les secteurs d'émissions sur la production d'énergie notamment. Donc le charbon toujours qui caracole en tête, le pétrole, le gaz. On a un effet d'accumulation en fait. Il y a des historiens dont il y a un historien très intéressant dont le nom m'échappe maintenant. Pardon, j'en parlais encore hier soir qui traite ce sujet-là de l'histoire de la transition énergétique. Et en fait, il y a une accumulation. Il faut imaginer un gros burger qui augmente, qui augmente, qui augmente. On n'a jamais renoncé au charbon, on n'a jamais renoncé au pétrole. On rajoute les ENR, etc., etc. Parce que la demande, elle, augmente. Donc on n'est pas vraiment sur un remplacement, mais sur une accumulation, toujours. Vous avez là les 10 premiers pays émetteurs jusqu'à donc 2023. Chine, États-Unis, Inde, Russie en quatuor de tête. Et évidemment, Il faut mettre ça par habitant pour avoir une perception plus fine. Donc là, vous voyez, c'est assez intéressant de voir que la Chine augmente assez fort par habitant en termes de CO2 par habitant. L'Union européenne qui descend bien, les États-Unis qui sont très 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 hauts, même s'ils baissent, mais avec des émissions par habitant encore extrêmement élevées. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi. Je vous apprends pas grand-chose, mais aussi de voir que en fait les trajectoires d'émissions sont le reflet d'une économie mondialisée. Donc même si dans l'Union européenne, par exemple, on peut avoir de fortes baisses, donc une diminution d'un quart entre 90 et 2022, on peut voir que par exemple l'Indonésie, elle a augmenté de 25% juste entre 2019 et 2022. Pourquoi ? Parce que l'Indonésie, notamment, fournit des matières premières pour la transition énergétique, notamment européenne. Donc là, pour aller plus en détail dans ces données et ces chiffres et voir des cas d'études par pays, par secteur, je vous renvoie à notre dernière publication 2023 de l'Observatoire Climate Change qui apporte vraiment les éléments tangibles sur ce que je viens de vous dire en trois minutes. Tout cela est évidemment disponible en libre accès sur notre site en français et en anglais. Donc, pour la COP29, quels enjeux et priorités sur cette COP29 en Azerbaïdjan? On entend beaucoup dire que c'est une COP sur les financements, ce qui est vrai. Alors pour rappel, en 2009 à Copenhague, il y avait eu cet objectif de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 à l'époque sur le climat. Ça a été très difficile à atteindre, l'objet de négociations très tendues depuis 2009. Il y a eu du retard sur ces objectifs là et donc là on est sur la négociation d'un nouveau cadre. Donc ce nouveau cadre là qui est censé être discuté à bas coût. Honnêtement, ça a l'air un petit peu mal engagé pour plein de raisons, mais en tout cas par rapport à la COP dernière où il y avait eu quand même des surprises intéressantes vu le contexte, notamment sur le fait qu'il y ait eu dans les textes finaux de négociation l'idée de phase out du pétrole et des énergies fossiles. Là on a clairement sur cette année un retour en arrière avec une ambition quand même très très basse, et aussi du fait il y a une espèce d'effet d'enjambement de cette COP là. Les Brésiliens avec la COP 30 ont beaucoup communiqué très tôt, ont beaucoup mobilisé, et en fait ça a un peu effacé celle du milieu, et du coup elle est perçue comme une COP intermédiaire, même si les enjeux sont très importants. Ça ajoute à cela des problèmes diplomatiques avec l'Azerbaïdjan, notamment là je parle plutôt pour la France, mais pas que, des questions aussi logistiques, opérationnelles, qui font que de fait ça va être une COP avec une participation moindre, et c'est alarmant, notamment puisqu'il va s'agir de discuter de flux de financement, et là on vous a mis un petit graphique sur l'origine de ces flux de financement. Il y a beaucoup d'aides publiques et de financement public de manière générale sur la finance climat. Il y a un enjeu où tout le monde dit il faut que les acteurs privés se mobilisent davantage. Et là, il y a plein de banques privées qui disent nous, on n'ira pas à bas coût. Donc il y a un petit problème sur cette sous-représentation de plein d'acteurs sur cette COP-là au regard des objectifs qui sont sur la table. Donc où en sont les négociations à l'heure actuelle? Donc comme je disais, on est sorti de la COP28 avec l'objectif dans les textes de tripler les capacités de renouvelables et de doubler le taux d'amélioration d'efficacité énergétique en 2030. Donc cette ligne qu'on n'attendait pas à Dubaï sur la transition et l'abandon des combustibles fossiles était quand même un cadre intéressant qui semble disparaître des radars en tout cas à l'heure actuelle, et on se rapproche très très vite de la date de la prochaine COP, donc ça semble mal embarqué. Un sujet de négociation intéressant qui lui a un peu avancé un peu en cavalier seul sur l'article 6 sur les crédits carbone, le marché du carbone, intéressant à suivre quand même, puisque là il y a eu des avancées dans les négociations intermédiaires cette année, à voir comment, une fois que les pays sont réunis à la fin de l'année avec les ministères, si ça continue à avancer. Voilà, donc sur et les pertes et dommages, qui c'est un sujet relativement récent où il va falloir avancer sur les détails, mais là je suis pas sûr que ce soit très très ambitieux, mais à suivre également. Donc voilà pour un contexte brossé très très rapidement, parce que je crois qu'on est déjà bien en retard. Peut-être quelques pistes sur l'action des collectivités locales et des villes dans tout ça, et pour donner un petit peu plus aussi un message un peu plus positif que ce que je viens de vous dire. Il y a quand même des choses très intéressantes qui se passent au niveau des collectivités, de l'action climat. La convention des maires, par exemple, je crois que maintenant ils en sont à plus de 13 000 signataires, qui est vraiment très très dynamique, avec donc des collectivités locales qui s'engagent sur des plans climat et la mise en œuvre de ces plans climat, des échanges d'expertise entre pairs. Donc c'est quand même très très intéressant, avec des financements notamment de l'Union européenne derrière et de banques de développement européennes pour ce qui est de l'Europe et du continent africain aussi. Donc parmi ces 13 000 signataires, ça couvre quand même plus d'un milliard d'habitants, donc c'est pas rien. Et parmi donc les villes engagées dans la convention des maires, on voit que ces villes-là vont plus vite que les objectifs de leurs États sur leur transition et sur leur réduction de leurs émissions. Donc c'est quand même assez effectif. Après, ça se confronte à des problèmes que vous connaissez évidemment sur qui fait quoi et les mandats des villes et des collectivités locales sur l'énergie, les transports, les déchets, etc. Et ça change selon les pays. Donc là, c'est juste un graphique qui met un peu en parallèle entre ce qui relève de l'État et ce qui relève des villes et des capacités et des marges de manœuvre. Après, sur les villes aussi, on a quand même, pour pas dire que tout est parfait et la solution est détenue par les collectivités locales, il y a aussi des difficultés de reporting, de constance, de moyens aussi, juste pour faire ce genre de reporting. Et du coup, on voit quand même une hétérogénéité des reportings sur les villes, sur leur propre action climat. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans des bases de données comme le CDP, par exemple. Sur la transition énergétique pure, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui pourraient être répliquées et qui peuvent inspirer des décideurs locaux comme les gens comme vous dans la salle. Il y a donc les Power Purchase Agreements qui marchent quand même très bien. Et tout ça, c'est des éléments que je vous ai mis comme ça, mais parce que nous, on a sur notre site et dans nos publications expliqué, analysé ces cas-là. Donc n'hésitez pas à aller voir derrière sur notre site en tapant les noms des villes et des sujets. Donc voilà, c'est les Power Purchase Agreements qui sont vraiment un instrument qui est en développement et qui marche assez bien. Les coopératives énergétiques aussi, évidemment, pour favoriser l'autoconsommation. En Europe, ça marche pas mal et ça se développe assez vite. En France, par exemple, on est passé à 187 opérations d'autoconsommation en 2023, alors qu'on en avait recensé 6 en 2018. Donc un fort développement. Et aussi parfois des décisions de municipalisation de l'énergie, tout simplement. Je vous renvoie peut-être au cas de Cadiz, qui est particulièrement intéressant sur ce sujet-là. Tout ça s'accompagne aussi de contraintes locales, évidemment, avec parfois des freins et des conflits par rapport à des projets de transition bas carbone notamment sur l'éolien, je vous apprendrai pas grand chose, mais voilà, il y a toute cette complexité à prendre en compte. Faut finir, ok. Donc sur l'adaptation, c'est un sujet nouveau montant, mais de plus en plus de villes se dotent de plans d'adaptation, et nous on nous sollicite beaucoup sur l'adaptation. Donc là, il y a tout un champ nouveau à explorer, et on essaie d'accompagner ça aussi à notre mesure à Climate Chance. Et voilà, l'adaptation qui n'est plus, heureusement, enfin, n'est plus considérée comme juste un problème de pays en développement, mais aussi de tout type de contexte avec des besoins colossaux. Tout ça pour dire que voilà, il faut continuer à faire de l'atténuation tout en faisant de l'adaptation. On y est bien contraint et obligé. Voilà, désolé pour le retard.
Pas de souci. Merci beaucoup, Monsieur Crouzet. Je voulais pas vous presser. Merci beaucoup d'avoir brossé, à la fois ce portrait pas forcément très réjouissant de la COP qui arrive, mais à la fois de l'action qui a bien et bien lieu sur les territoires, et sur laquelle il y a des marges d'amélioration. Je voulais quand même laisser, s'il y a une réaction, une ou deux réactions, cinq petites minutes, pour profiter justement de ce regard un petit peu général et de cette perspective de la COP 29. Si dans la salle ou parmi les panélistes il y a une remarque, une question, on peut se laisser cinq petites minutes pour ça avant de passer à la prochaine section.
Bonjour Romain. Moi, je me demandais si vous aviez, à travers Climate Chance, identifié des messages spécifiques qui seront portés à la prochaine COP par les collectivités. Est-ce qu'il y a un message qui ressort particulièrement pour cette COP-là ?
Alors, c'est Iclei qui pourra répondre très précisément à cette question. Iclei est le focal point des collectivités locales dans les négoclimats. Mais bon, je vois que les demandes sont un peu toujours les mêmes sur plus de gouvernance multi-acteurs, une meilleure intégration des niveaux, plus d'accès au financement, la question de l'adaptation qui monte assez fort. Donc voilà, après sur... Quand on est dedans tout le temps comme moi, c'est vrai que ça semble un peu que ça avance pas forcément beaucoup, mais voilà, c'est on en est toujours là. Après, la place des collectivités locales dans cette sphère climat a vraiment augmenté de manière très exponentielle. Ça dépend aussi parfois du pays hôte, mais il y a quand même une reconnaissance forte, et le fait que maintenant il y a plus trop de questionnements sur le fait de devoir faire avec les collectivités. Sinon ça marchera pas, et du coup voilà, les collectivités, elles ont un pavillon énorme dans chaque COP. Il y aura donc le multi-level governance, je crois qu'il s'appelle, pavillon à Bakou, et Iclei qui est très en pointe sur ce plaidoyer. Après, peut-être sur les messages, je suis passé très vite sur ce nouveau cadre de financement qui doit être négocié, mais j'ai oublié de vous dire, on a toute une note de décryptage assez précise dispo sur notre site. Tania, qui est là, ma collègue, a rédigé cela et on l'a rendu disponible il y a quelques jours, semaines. Donc n'hésitez pas à y aller aussi sur vraiment sur la question financement et qu'est-ce qui va être négocié à cette COP.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question ou remarque ? Non ? Très bien. Bon, on va pouvoir passer à la seconde section. Section du coup pour incarner ce panorama, ce florilège de collectivités à travers leurs propres paroles. Merci beaucoup, Romain. Hop là. Et pour alors, on aura donc la ville de Grenoble qui va pouvoir parler de son approche, de l'intégration de ces questions internationales, des liens avec ses plans locaux. Alors, ce que je vous propose, puisque la table est un peu petite, c'est pas forcément de faire venir tous les panélistes, comme ça vous pouvez en plus profiter des présentations. Je ferai les introductions au fur et à mesure. Madame Aurélie Lemeur, donc directrice de Grenoble Ville Ouverte, et je vais mettre de ce pas votre présentation. Allez-y, merci.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir proposé de participer pour vous partager et vous présenter comment la ville de Grenoble inclut complètement ces enjeux de transition climatique au sein de sa politique de relations internationales. Donc portée par l'adjoint en relations internationales Emmanuel Carroze, qui est présent pendant cet événement. rapidement vous dire que la ville de Grenoble a défini son nouveau cadre de politique internationale et européenne pour la période 2023-2028 avec trois orientations prioritaires qui doivent se retrouver dans les 19 coopérations décentralisées et jumelages qui sont portées par la ville. Et le premier objectif, c'est de pouvoir amplifier les transitions environnementales et sociales. Nous avons également un objectif de promotion des droits humains, de lutte contre les discriminations, de travail sur les mémoires et sur les résistances, et enfin de défendre et de porter la paix et l'hospitalité inconditionnelle. Alors j'étais obligée de vous parler de l'organisation administrative de la mise en œuvre de cette politique parce que elle traduit le projet politique et elle permet aussi de faire des ponts. Et du côté des collectivités, il y a différents formats, on le sait, d'organisation de ces départements relations internationales. Et à la ville de Grenoble, depuis 3 ans, dans la perspective de l'année Capitale Verte Européenne 2022, il y a eu la fusion des directions de la direction des relations internationales avec la mission Ville de Demain, qui était à l'origine de ce dossier Capitale Verte, et de tous les sujets de transformation stratégique et d'innovation de la ville. Aujourd'hui, ça s'appelle la direction Ville Ouverte, et vous voyez les 5 domaines d'intervention de cette direction qui compte une petite trentaine d'agents. Une quinzaine sur la dimension pure relations internationales et européennes, notamment avec un équipement public. Et puis toute la dimension innovation publique, prospective 2040, mais aussi redirection de l'action publique et évaluation des politiques publiques. Grenoble, capitale verte européenne en 2022. Et à l'occasion de cette année, les élus ont souhaité lancer un nouveau projet, car c'était finalement que le début d'une grande aventure, ce titre capitale verte européenne. Et donc le projet Grenoble 2040 a été initié pour dessiner un horizon souhaitable, désirable, un monde écologiquement sûr et socialement juste pour ces enfants nés pendant l'année Capitale Verte Européenne qui auront leur majorité en 2040. C'est le retour aussi des démarches un peu de prospective à l'échelle locale et territoriale. Il y a eu une grande période, il y a quelques dizaines d'années, ça s'est un peu perdu. Et puis là, on sent que ça revient, mais dans une autre approche. Donc la démarche à Grenoble, de Grenoble 2040, ses objectifs, c'est de proposer des outils cognitifs pour penser demain. Dans un monde en bouleversement, on sait que c'est pas toujours simple de se projeter et de se projeter bien. De redonner et de partager cette capacité à se projeter avec les habitants. Et puis d'outiller l'administration pour se projeter à long terme avec des outils de visualisation, de planification et de sécurisation. Donc Grenoble 2040, les enjeux de transition environnementale et sociale sont complètement au cœur. Vous l'avez compris. Il y a une approche également qui permet de faire le lien entre la raison et les émotions, de pouvoir partager cette approche sensible, imaginative, créative. Et puis cette approche transversale qui doit pouvoir se retrouver dans l'ensemble des politiques publiques de la ville. Donc là, vous avez un petit peu la galaxie de ce que recouvre cette démarche. Je l'ai déjà un petit peu dit. Voilà. La ville de Grenoble travaille depuis 3 ans à partir de la théorie du donut développée par Kate Raworth et donc qui permet d'allier la question des limites planétaires et des objectifs de développement durable dans cette théorie économique qui propose de définir un plancher social de satisfaction minimale des besoins humains essentiels et puis un plafond environnemental qui délimite ces seuils sur ces différentes limites planétaires, que ce soit le climat, mais aussi la biodiversité, l'eau, et donc d'essayer de tout faire pour que nos différentes politiques publiques à l'échelon local puissent arriver dans cet espace vert, écologiquement sûr et socialement juste. c'est un outil international qui est porté par Kate Raworth et son équipe, par le DEAL. Donc c'est vrai que ça nous met tout de suite en lien avec des collectivités du monde entier où on partage le même référentiel et les mêmes outils. Donc ça nous permet de nous comprendre tout de suite et de partager nos différentes démarches. La ville de Grenoble a fait un premier portrait territorial à l'aide de cet outil en 2022 et continue à développer différentes applications qui couvrent cet objectif de réduction de notre empreinte sur les limites planétaires et d'augmentation de la satisfaction et de l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc il y a l'enjeu, je vous l'ai dit, de faire converger les différentes politiques publiques sectorielles pour atteindre ces objectifs. Et l'autre sujet, donc ça, la question de Grenoble 2040, la théorie du donut, dès qu'on est en lien avec nos territoires de coopération, nos villes jumelées, les villes qui demandent des accueils à Grenoble, quand on leur présente un petit peu le panel de ce qu'on pourrait échanger et partager avec elles, peut-être qu'on te présente bien et qu'on est particulièrement intéressé, mais ça accroche tout de suite en fait, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas exactement où ça nous emmène. On est en train d'élaborer la démarche et je pense qu'il y a une connexion assez facile de se dire à différents endroits de la planète, on peut se connecter, on peut partager nos démarches et être en recherche, en développement et en expérimentation partagée. Donc c'est plutôt ça concerne l'essentiel de nos échanges internationaux côté ville de Grenoble. C'est basé bien évidemment sur différentes stratégies, dont le plan climat, air, énergie territoriale bien entendu. Visualiser le donut, planifier, donc c'est faire converger nos différents plans et politiques publiques. Et le dernier point, c'est sécuriser, car on sait, on est déjà soumis à des chocs, à des aléas. On sait qu'on va l'être de plus en plus. Et donc la collectivité a l'objectif de sortir une stratégie de résilience d'ici la fin de l'année pour pouvoir donner les moyens de garantir l'atteinte de ces objectifs à Grenoble 2040. Donc, comme le petit schéma vous l'indique, cette stratégie, elle est là pour nous permettre eh bien, de nous relever après les différents chocs et de rester présents et en capacité d'agir. Donc, on vient de terminer l'étape de diagnostic. Et la deuxième étape, c'est la rédaction de cette stratégie qui se base sur trois piliers. Le premier, c'est de préserver la capacité à agir des habitants et des habitantes. Ensuite, de préserver la capacité à agir de la collectivité et de renforcer les coopérations et les solidarités. Donc, on est effectivement sur des principes de liens, de réseaux, de redondance pour nous permettre d'absorber ces différents chocs et pouvoir continuer à agir. Donc, cette démarche, elle est assez ouverte. Elle est là pour nous donner les moyens d'imaginer collectivement différents scénarios et de pouvoir les mettre en débat à l'échelle locale et construire au fur et à mesure de ces échanges, qu'ils soient en interne collectivité ou sur le territoire avec les habitants, une vision commune et partagée de notre désir de Grenoble 2040. Et voilà, j'avais quelques petites illustrations où on a différentes visions. C'est caricatural, hein, bien sûr, mais ça nous permet de nous projeter. Peut-être juste également vous indiquer que ça se traduit dans l'organisation d'un événementiel local et international d'ampleur, la Biennale des villes en transition, qui a lieu tous les 2 ans, qui aura lieu la prochaine fois en mai 2025, et qui est à l'initiative de la ville de Grenoble. On en est à la 5e édition l'année prochaine. Et par exemple, en 2023, on avait 17 représentations de délégations étrangères pour parler des grands enjeux de la ville, du vivre ensemble et du climat et des stratégies d'adaptation. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce qu'on fait.
Très bien.
Merci de votre écoute.
Merci beaucoup. Et bah, je profite juste d'une toute petite question. Mais vous parliez de villes et donc de villes jumelées, etc., à l'international, qui travaillent également sur cette théorie. Et le fait d'y travailler, ça vous met en lien. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est encore très précurseur? Est-ce que c'est plutôt dans les régions européennes, ou est-ce que c'est déjà très international? J'étais curieux de ça.
Alors, comme c'est une démarche, comment dire, un peu work in progress, Kate Raworth, elle a fait la théorie. Maintenant, il y a tous les outils et toutes les applications à construire et à co-construire. Donc, on y va un peu chacun à différents niveaux d'engagement. Mais on fait partie. On a, par exemple, là, on est sur un projet européen Interreg sur la question de la résilience territoriale avec 6 autres territoires en Europe. UE, mais on échange aussi avec notre ville jumelle au Japon, avec notre ville jumelle des États-Unis, Phoenix. En fait, ça a l'avantage d'être très facilement appropriable. On parle tout de suite le même langage. Je ne sais pas exactement combien il y a de villes dans le monde qui utilisent le donut, mais en tout cas de plus en plus, et en France aussi.
Merci beaucoup. Merci Madame Le Meur. Ça me permet de, bon, sans trop de transition, d'aller faire un petit changement d'échelle et maintenant de regarder comment une région, la région Sud en l'occurrence, s'est aussi approprié ces questions climatiques et les a intégrées dans son action internationale et à travers son action internationale. Alors, Monsieur Emilio Piriz, chargé de mission Région Sud, la parole est à vous.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation à participer à cette table ronde très intéressante. Alors, donc, nous, à la région Sud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc je ne vais pas être trop long, en plus je crois qu'on a un peu de retard, donc je vais essayer de dire rapidement ce que nous faisons, ce que nous prévoyons de faire et comment peut-être améliorer ce que nous faisons.
Le micro bien proche.
Oui, alors, ce que je dirais, c'est, moi je vais me concentrer vraiment sur notre action internationale sur les questions climatiques et environnementales. Alors tout d'abord, c'est le reflet que sur notre action régionale, elle s'est vraiment concentrée très fortement sur les questions climatiques et environnementales ces dernières années. Dès 2017, la région s'est dotée d'un plan climat ambitieux avec 100 actions concrètes, appelées une COP d'avance. En 2021, la région a adopté un deuxième plan climat, gardant une COP d'avance avec 140 actions concrètes. En 2022, la région a signé un protocole d'expérimentation sur la planification écologique avec l'État. En 2022, la région s'est dotée aussi d'un budget 100% climat, c'est-à-dire que toutes les dépenses sont auto-évaluées selon différents critères environnementaux et climatiques. Et donc, notre action internationale, logiquement, est le miroir de cela, et c'est vraiment très fortement concentré sur l'action climatique et environnementale. Aujourd'hui, je dirais qu'environ 80-90% de notre action est vraiment fléchée sur ce secteur-là. Et par exemple, l'année dernière, ça s'est traduit par une vingtaine de projets représentant près d'1 million d'euros en subventions accordées spécifiquement sur les questions climatiques et environnementales. Voilà, avec différents projets. Donc, par exemple, au Maroc, on a un projet très important sur la transition énergétique, en Égypte, sur l'économie circulaire et la lutte contre le recyclage des plastiques, qui est un enjeu énorme. Voilà, je pourrais en citer beaucoup, mais on a vraiment une action assez variée. Donc, nos modalités d'intervention sont assez variées. Ce qu'on essaie de faire, d'une part, c'est de nouer des partenariats avec des territoires assez avancés au niveau international sur les questions climatiques. Par exemple, notre région s'est dotée d'un partenariat de coopération très important avec l'État du Costa Rica, donc vraiment au niveau de l'État, qui, comme vous le savez, est un État assez avancé sur la préservation de ses espaces naturels, la protection de sa biodiversité. Donc on a signé un accord de coopération avec eux. On a lancé un gros projet de coopération avec le soutien de l'AFD sur le fonds FICOL, sur des questions de biodiversité, d'eau et de parcs. Et on va continuer avec eux sur les sujets d'aires marines protégées. Donc ça, c'est vraiment une coopération très importante, très portée politiquement au sein de notre région. Sur le même plan, on a une coopération récente avec l'État de l'Utah aux États-Unis, qui est un des États qui compte le plus de parcs nationaux, avec lesquels on va travailler sur ces sujets-là. Et aussi sur la question des Jeux Olympiques d'hiver, parce que notre territoire, avec Auvergne-Rhône-Alpes, va accueillir les Jeux Olympiques d'hiver en 2030, l'Utah en 2034. Et donc, on a tout un programme de coopération sur les Jeux propres, les Jeux durables, verts, etc. Donc, on va travailler fortement avec eux sur cette question-là. Ensuite, ce que je dirais dans notre modalité d'intervention, nous, on est très centré sur la Méditerranée, évidemment. Notre région se projette très fortement sur la Méditerranée. Autant 80-90% de notre action est sur les questions climatiques et environnementales. Et je dirais de la même manière, 80-90% de notre action est vraiment sur le bassin méditerranéen. Donc, comme vous le savez, c'est une région très fragile sur le plan climatique environnemental. C'est un point chaud climatique, un hotspot, avec des, je regardais les chiffres, des températures de l'air, des pics à 49 degrés, température de l'eau, des pics à 28 degrés, des prévisions de hausse des températures entre 3 et 6 degrés à l'horizon 2100. Donc vraiment des chiffres extrêmement inquiétants et beaucoup de gros enjeux que nous avons en commun entre territoires méditerranéens. Donc on a beaucoup de projets sur, avec les. Donc en tout, la région a 23 partenariats de coopération et l'essentiel donc est sur le bassin méditerranéen. Nous aussi, nous avons de l'événementiel tourné sur ces questions-là. Chaque année, nous organisons un gros événement qui s'appelle Méditerranée du futur, qui est une grande conférence internationale au cours de laquelle nous invitons tous nos partenaires de coopération. Ça permet de faire beaucoup de choses, d'avoir deux jours de débats, de réunions ad hoc, etc. Et c'est toujours sur un enjeu climatique et environnemental. Et ce qui est intéressant avec cet événement, c'est que derrière, on lance un appel à projet, généralement 200-250 000 euros, pour financer des projets concrets qui sont aussi la résultante de ce qui a été débattu à Marseille. Donc ça, c'est assez intéressant comme schéma. Donc bien sûr, après, nous participons à beaucoup de réseaux, des réseaux euro-méditerranéens, de régions, de territoires sur lesquels nous travaillons sur ces questions-là. Il y a un projet qui est particulièrement important, c'est la promotion d'une stratégie macro-régionale en Méditerranée. Vous savez, au niveau de l'Union européenne, il y a différentes macro-régions, que ce soit dans les Alpes, Danube, Baltique, et nous, avec d'autres régions et d'autres territoires méditerranéens, nous poussons fortement pour qu'il y ait la même chose au niveau méditerranéen. Et l'idée, c'est que ça soit vraiment centré sur de l'opérationnel, du concret et des projets sur les questions climatiques et environnementales. Et donc, c'est aussi une façon de participer. Vous savez que dans l'espace méditerranéen, c'est un espace politiquement très complexe. Les questions d'intégration, de dialogue politique sont extrêmement compliquées, encore plus actuellement. Et donc, le prendre par le biais de l'opérationnel, du concret et des enjeux climatiques et environnementaux nous semble vraiment tout à fait pertinent. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Donc voilà, en conclusion, je ne vais pas être beaucoup plus long. Ce que je dirais, c'est que du coup, là, on sort d'une phase un peu de massification, c'est-à-dire on fait vraiment de plus en plus de projets à l'international sur la question climatique et environnementale. Je pense que si on fait la somme de ce que nous faisons tous, ça commence à représenter des montants assez importants. Nous sommes de plus en plus soutenus, il faut le dire, par exemple par l'AFD, par d'autres cofinanceurs aussi au niveau de l'Union européenne. Donc ça, c'est très important. Je pense que ça nous engage aussi à essayer de mieux évaluer, c'est-à-dire de, après toutes ces années un peu de massification, de concentration de moyens, peut-être qu'il faut aussi qu'on se pose, qu'on réfléchisse aux résultats de toutes ces actions, ce que ça a permis, d'être lucide aussi quand ça a bien fonctionné, moins bien fonctionné. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur ces questions d'évaluation, de peut-être de travailler en commun, de concertation, État, région, etc., pour se vraiment essayer de définir certaines priorités et voilà, et avoir une action qui soit le plus efficace possible. Sur l'événementiel, pardon, j'ai pas mentionné l'UNOC, mais ma collègue Cécile de Nice le fera. On essaie aussi de profiter des gros événements qui peuvent se tenir à Marseille, dans notre région. Je dis Marseille parce qu'il y a quelques années, nous avons accueilli le Congrès mondial de la nature et nous sommes fortement mobilisés à ce moment-là. Et donc, en juin 2025, il y aura l'UNOC dans notre région, à Nice. Et donc, il y a différentes initiatives et la région va très fortement se mobiliser. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Donc, vraiment, essayer, à mon avis, voilà, de travailler sur cette question, de rendre toute cette aide, tous ces projets les plus efficaces possibles. Il faut qu'on y réfléchisse. Il y a différents outils possibles. Il y a maintenant les COP régionales aussi qui sont développées. Peut-être avoir un volet international plus fort dans ces différentes COP régionales. Et voilà. Voilà un petit peu le message que je voulais passer. Et la dernière petite idée, c'est un petit peu différent, mais peut-être avoir une réflexion aussi sur le caractère propre de nos projets de coopération en eux-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que parfois, ces projets de coopération, il y a beaucoup de billets d'avion, etc. Il y a un impact carbone qui est pas négligeable. Donc ça, c'est une autre idée sur un autre plan, mais avoir une réflexion sur ça, c'est important bien sûr de se voir. Le projet de coopération, c'est de l'humain, il faut se déplacer, etc. Mais néanmoins, avoir une réflexion sur l'impact carbone des projets de coopération en eux-mêmes, je pense que c'est assez intéressant. Voilà, un petit peu ce que je voulais dire.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Pierriz. Bah, du coup, merci également d'avoir fait la transition vers voilà, vers l'action de la ville de Nice. Alors, on redescend vers une échelle de ville, mais notamment pour parler cette fois-ci d'action en réseau, d'action en coalition. Et donc, je vais laisser Cécile Remion aborder cette initiative à laquelle la ville de Nice participe. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Vous m'entendez bien?
Oui, mais peut-être un peu plus.
Plus près? D'accord. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Cécile Rémillon, je fais partie de la métropole Nice-Côte d'Azur et comme dans toutes les grandes métropoles, les services fonctionnels sont mutualisés, donc sont communs. Donc aujourd'hui je parle au nom de la ville de Nice parce que la ville de Nice accueillera, ça Ça, c'est bon. La ville de Nice accueillera en juin prochain la conférence mondiale sur l'océan. Donc évidemment, le réchauffement climatique impacte directement l'océan et le niveau de et son niveau. Donc il s'agit alors pour ce genre d'événement comme les rails c'était en général, ça aurait dû être un élu. Il y a deux élus à la ville de Nice qui ont été mandatés sur cette question. Il s'agit de Richard Chemla qui est un scientifique et d'Agnès Rambal qui est élue à l'Euroméditerranée dont je fais partie à la base. Mais en raison de vraiment d'agenda, puisque la délégation des Nations Unies se trouve actuellement à Nice, qui va héberger donc ce troisième sommet de l'océan pendant une semaine à Nice, avec un nouvel envoyé des Nations Unies. Donc voilà, les élus sont mobilisés à cette occasion et vous demandent de les excuser pour leur absence. Donc pour le l'UNOC, les notes, elles sont. Donc l'UNOC va être co-organisé par la France et le Costa Rica. Donc ça fait le lien avec le travail de la région PACA Sud. Pour la France, l'envoyé spécial du président de la République est Olivier Poivre d'Arvor, l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor. Pour le Costa Rica, il s'agit de l'ambassadrice Gina Griot. À l'origine, en prélude de cet événement qui se tiendra du 9 au 13 juin, il y a trois événements side events, comme on dit en anglais, excusez-moi. Un qui concernera un congrès des scientifiques. Donc à Nice, l'année prochaine, il y aura entre 2000 et 3000 scientifiques qui se réuniront sur la question de l'océan. Il y aura aussi évidemment une partie financière avec les instruments innovants de financement sur la question de l'océan et très logiquement cette partie sera organisée par la principauté de Monaco. Et il y aura un troisième volet, et c'est là que nous intervenons, qui est une coalition des villes et régions côtières du monde affectées par l'élévation du niveau de la mer. Donc cette coalition, le président de la République Emmanuel Macron a demandé à Christian Estrosi, le maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, de l'organiser et de regrouper des autorités locales, donc villes, régions, qui concerneraient plus d'un milliard d'habitants. Donc depuis plus d'un an, nous travaillons à effectuer des plaidoyers dans les principaux événements internationaux où l'on peut sensibiliser les autorités locales sur cette question. Les partenaires de la ville de Nice sur la préfiguration de cette coalition sont évidemment le gouvernement français avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de la Transition écologique. Il y a pour la partie société civile la plateforme Océan Climat qui a engagé depuis des années et plus spécifiquement sur l'océan depuis l'année dernière un travail de concertation et d'études sur l'océan et évidemment un certain nombre de réseaux d'autorités locales comme CGLU, CUF et des donateurs évidemment privés. L'objectif vraiment de la coalition, oui, je m'excuse parce que il n'était pas prévu que ce soit moi qui fasse l'intervention. Donc, alors cette coalition s'appelle, puisque c'est un environnement international, hein, c'est l'Ocean Rise and Coastal Resilience a Coalition for Cities and Regions. Qui a pour objectif donc de ne traiter entre guillemets que l'aspect élévation du niveau de la mer. mais elle passera par en fait la thématique des trois événements qui seront en prélude de l'UNOC, c'est-à-dire qu'elle travaille à la création d'une plateforme scientifique sur laquelle où seront regroupées toutes les données, tous les résultats scientifiques en matière d'océan sur le niveau de la mer, sur les nouveaux instruments financiers et surtout sur l'échange d'expériences entre les autorités locales et donc la coopération décentralisée. Donc c'est vrai que on essaie tous de faire en sorte que la diplomatie des territoires vraiment impacte et joue un rôle important dans la diplomatie des États. Là, je pense qu'on a un exemple vraiment très concret puisque cet événement est vraiment consacré aux autorités locales. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Alors oui, alors après, d'un point de vue plus pratique, organisationnel, donc évidemment, nous on a mis en place un comité de pilotage avec un comité technique où on travaille. Donc il y a différents groupes de travail qui ont été créés sur les trois objectifs prévus par la lettre de mission d'Emmanuel Macron, avec un groupe de travail supplémentaire qui porte sur la gouvernance, puisque la question se pose de savoir où va être héberger cette coalition. Donc pour avoir un ancrage fort au sein des Nations Unies, donc des réflexions sont menées avec une organisation qui connaît bien le monde des Nations Unies, mais effectivement nous on aimerait bien évidemment qu'elle soit hébergée à Nice. Donc ce sont des questions qui sont encore en suspens et en travail, mais donc le 7 juin 2025, ce sera vraiment l'annonce du lancement de cette coalition. Et le parrain, ce sera le cacique Raoni. La plateforme, du moins, à l'issue de ce lancement, de ce sommet de cette coalition, une déclaration sera faite qui a commencé déjà à être signée par une soixantaine de villes de tous les continents. Il s'agit de la déclaration Seas, Sea comme la mer et Tease comme les liens, voilà, qui fait référence évidemment à nos autorités locales auxquelles on est si attachés. Et je vous invite tous à aller sur le site de l'UNOC3, c'est comme ça que l'on appelle le Sommet mondial de l'océan, la troisième édition du Sommet mondial de l'océan, à consulter le site de la plateforme Océan Climat, et un site internet évidemment de la coalition va être créé, mais c'est ce à quoi nous travaillons. Je pourrais aussi vous transmettre par le biais de David Pierre le lien sur une vidéo qui a été créée à l'occasion de la préfiguration de cette coalition et qui a été présentée à l'Assemblée générale des Nations Unies le 26 septembre dernier, où une place des autorités locales avait été dédiée pour justement cette coalition. Je reste à votre disposition. Merci.
Merci beaucoup, Madame Royon. Merci pour cette présentation donc de l'initiative que Nice porte en perspective de l'UNOC. Pour rester dans la thématique des coalitions et toujours en réduisant au maximum les transitions, je vais maintenant inviter Florent Gallois qui va, du coup, au nom d'Expertise France, parler aussi, avec ce regard un petit peu multiniveau d'ailleurs, de l'appui de l'État, d'Expertise France, à une coalition de maires de l'Afrique subsaharienne, qui accessoirement est le théâtre aussi d'autres liens de coopération. Merci beaucoup, Monsieur Gallois.
Merci beaucoup.
Il y a une petite présentation.
Merci beaucoup David-Pierre. Peut-être je vais commencer par dire un mot sur Expertise France. On est une agence jeune et je pense que tout le monde ne connaît pas Expertise France. Donc on est la filiale technique du groupe AFD. Donc on n'est pas une agence qui a des capacités de financement en propre, mais on est une agence de mise en œuvre qui peut répondre soit aux sollicitations de l'AFD, des différents ministères et dans ce cas précis de l'Union européenne. À noter aussi, et c'est une particularité d'Expertise France qui est particulièrement intéressante aujourd'hui, c'est qu'on a la mission de porter l'expertise publique française dans nos projets. C'est pas systématique, mais c'est une possibilité et c'est un de nos objectifs. Donc on va toujours être très très à l'écoute et très en demande de l'expertise, notamment de l'expertise publique en général, mais également de l'expertise des collectivités territoriales. Donc ce projet dont je m'occupe, qui est le projet de soutien à la Convention des maires en Afrique subsaharienne, est un projet qui est financé par l'Union européenne et qui vise à soutenir le réseau de la Convention des maires en Afrique. Le réseau de la Convention des maires, donc c'est la Convention des maires pour l'énergie et le climat. Et c'est donc un groupement de plus de 13 000 communes, Romain le disait tout à l'heure, qui s'engage à mener des actions pour le climat et l'énergie et qui s'engage aussi à effectuer un suivi et le reporting de ces actions grâce à des outils communs et ce qui est une aide évidemment ensuite pour le plaidoyer pour le rôle des collectivités dans la lutte contre le changement climatique. En Afrique, il y a environ 350 communes signataires, 130, ça représente plus de 137 millions de personnes, et donc 9 des 15 plus grandes villes africaines. Vous avez une carte qui montre la répartition. On a un gros ancrage en Afrique de l'Ouest, mais il y en a également dans toute l'Afrique. Le projet dont je m'occupe, qui est le projet européen, il vise à renforcer la prise en compte des enjeux climat et énergie dans la planification territoriale. Donc il y a un gros volet sur l'élaboration de plans climat et le renforcement de capacité des collectivités qui sont accompagnées. Il y a un volet très important sur la structuration de projets qui est plutôt porté par l'AFD, sur la structuration de projets et sur l'accès au financement pour les projets climat et énergie des collectivités. Et puis un troisième volet qui est sur les échanges, la mise en réseau de ces collectivités et la dimension de plaidoyer. On a parlé des questions internationales avec Climate Change et à la COP, mais il y a aussi toute une part de ce plaidoyer qui se fait au niveau national pour porter la voix des villes vis-à-vis des gouvernements avec lesquels on travaille. Avancer. Le projet se finit la semaine prochaine. Donc on est dans nos dernières, cette phase de ce soutien se finit la semaine prochaine. Donc on a quelques résultats. On a toujours cette idée de partir de la planification, des études de diagnostic, de passer par des démarches participatives, de la concertation, la formation et le renforcement de capacités pour aller vers des actions concrètes et donc vers des investissements publics. Ce projet-là, au cours des trois dernières années, a permis d'élaborer 26 études, de former plus de 800 personnes. Nous, du côté d'Expertise France, on a accompagné 5 collectivités sur l'élaboration de plans climat. On a également accompagné des collectivités qui avaient déjà des plans climat dans la mise en œuvre de leurs plans. Et on aboutit à un montant de 458 millions d'euros d'investissements qui ont été identifiés et qui ont été actés, des réductions des émissions de CO2 anticipées, donc qui sont prévues dans les projets qui seront mis en œuvre, de l'ordre de 810 000 tonnes de CO2 évitées par an. Voilà, c'est principaux chiffres de notre projet. Un autre volet qui n'apparaissait pas dans l'infographie précédente, donc c'est cette idée de porter la parole des villes avec plusieurs objectifs. Le premier, j'en ai parlé, c'est l'accès à la finance et notamment l'accès à la finance climat. On parlait de ces fonds de 100 milliards d'euros par an qui sont relativement peu décaissés, qui sont disponibles, qui sont très difficiles d'accès et particulièrement difficiles d'accès pour les collectivités et encore plus pour les collectivités africaines. Donc ça fait partie du défi. Et dans le plaidoyer qu'on a mené, il y a cette idée de faciliter l'accès et de bien prendre en compte les collectivités et les capacités des collectivités, notamment africaines, dans la structuration et dans le montage de ces fonds. Un deuxième volet, et j'étais très heureux de retrouver ce graphique dans la présentation de Romain, sur le reporting, et qui montre aussi... Voilà, il y a cette idée de valoriser l'action des collectivités, de montrer que les collectivités ont un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique. Et pour ça, il faut des chiffres. Et un des rôles de la Convention des maires, c'est de travailler sur ce reporting et de renforcer les collectivités sur ces aspects-là. Et puis un dernier volet que j'ai mis là aussi, parce qu'on parle beaucoup du plaidoyer à l'international, on parle beaucoup de la COP, on parle de ces enjeux, mais pour nous, un des enjeux principaux a aussi été de travailler sur l'alignement entre les stratégies nationales de lutte contre le changement climatique et les actions locales des collectivités dans les pays dans lesquels on intervient, qui pour cette phase-là a été d'ailleurs le Togo, le Mali, le Kenya et l'Ouganda. Donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Et on s'est très souvent confronté aussi à l'incapacité des collectivités à accéder à des financements importants sans un soutien fort de l'État dans ces pays. Et donc, un axe de notre travail a été de mener ce plaidoyer, d'animer la discussion entre les collectivités et leur ministère de tutelle, souvent. Et puis, de bien comprendre comment est-ce que, à travers la contribution déterminée au niveau national, à travers les stratégies nationales d'adaptation au changement climatique, les collectivités pouvaient apparaître comme acteurs de la mise en œuvre des stratégies nationales, et ce qui était aussi un point qui leur permet de faciliter l'accès au financement de leurs investissements. Voilà, mon dernier point, je vais essayer d'être bref, sera sur l'implication des collectivités françaises, qui, donc je le disais, c'est une des missions d'Expertise France. On essaye de réfléchir dans nos différents projets à comment est-ce qu'on peut intégrer le savoir-faire des collectivités. Sur cette phase-là, on a eu tout un volet... sur la visite d'études et des échanges entre la région Nouvelle-Aquitaine et des communes togolaises. Ici, vous avez une photo de cette délégation togolaise à Lacano, où ils sont allés travailler sur comment est-ce que les collectivités prenaient en main l'érosion côtière, qui est un sujet très important au Togo, qui est un sujet que la ville de Lacano connaît bien. On a organiser des échanges sur cet axe, et qui ont été des échanges à la fois au niveau de la ville de Lacano, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, et puis au niveau aussi national et gouvernemental. Dans la prochaine phase de la Convention des maires, qui démarrera en 2025, on va essayer d'aller un peu plus loin dans la mobilisation de l'expertise, toujours avec la région Nouvelle-Aquitaine, et avec cette idée de... Il y a cette expertise sur l'animation du plan climat. Vous parliez des COP régionales. Comment est-ce que les collectivités animent et rendent vivante leur plan climat, qui n'est pas juste un document qui dort dans un placard, mais qui est aussi un enjeu de mobilisation du territoire et d'échange avec les partenaires. C'est quelque chose sur lequel il y a une vraie expertise du côté des collectivités françaises. Il y en a beaucoup moins au Togo et avec les collectivités avec lesquelles on travaille. Et donc, il y avait cette idée d'échanger et de dialoguer sur ces sujets-là. Un autre axe de travail qui a été très intéressant était plutôt là du côté de l'Ouganda et de la ville de Kampala, qui est jumelée avec l'Eurométropole de Strasbourg. Et où il y avait un projet FICOL porté par l'Eurométropole de Strasbourg sur la gestion des espaces verts. Et puis, avec ce projet-là, on est venu accompagner ce projet sur la gestion des espaces verts en y proposant une dimension qualité de l'air et en articulant notre projet qualité de l'air avec ces projets de l'Eurométropole de Strasbourg, en allant aussi mobiliser là pour le coup l'expertise d'Atmo Grand Est, donc qui est l'agence qui est en charge de la surveillance de la qualité de l'air à Strasbourg et qui a pu être mobilisée par Expertise France. Voilà, je vais m'arrêter là, mais l'idée est aussi de dire que on va relancer des projets. Expertise France est une agence nationale, mais qui a cette volonté de travailler avec les collectivités françaises. On est très à l'écoute des savoir-faire et des expertises que vous avez et que vous souhaiteriez qu'on puisse projeter ensemble à l'international. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Gallois. Ça va nous amener jusqu'à la dernière présentation. Vous avez un petit peu abordé cette problématique de l'accès au financement justement à favoriser, et on a pour ça une dernière intervention, initiative qui est également un réseau de collectivités territoriales essentiellement, mais orienté sur la question et la problématique des financements. Monsieur Carlos de Freitas, directeur exécutif de Fonds mondial pour le développement des villes du FMDV, la parole est à vous. Merci d'être venu.
Merci. Je me suis levé avant d'être appelé parce que comme on a peu de temps. Pour aller très vite, donc le FMDV est effectivement un réseau de villes. Pardon, je suis enrhumé. Il fait froid à Paris. Créé par CGLU et Métropolis en 2010 pour commencer à travailler sur les questions du financement, renouveler le narratif sur ces questions-là au niveau des élus d'accroître le niveau de dialogue et les relations avec les banques multilatérales et bilatérales de développement. L'idée c'était de proposer des aménagements à la fois dans le plaidoyer international au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire de rendre plus visible la contribution possible des collectivités sur les questions du financement, à la fois évidemment sur le côté demande, c'est-à-dire d'avoir une décentralisation accrue, toutes les questions que vous connaissez, mais aussi de promouvoir des initiatives, des expériences d'ingénierie financière qui ont lieu sur les territoires mais qui sont peu connues au niveau international. Dans toute notre discussion, je crois qu'il y a quelques éléments importants à rappeler, c'est que il y a une jet set internationale du développement qui se déplace de conférence en conférence, et ces acteurs-là ont mis du temps à intégrer les territoires, les villes et les régions dans leur scope d'acteurs, parce que pendant longtemps les délégations d'élus étaient pas très nombreuses, pas très visibles. Petit à petit, notamment par le biais de la mobilisation de certains pays comme la France, l'Union européenne qui a pris le relais ensuite sur les questions de gouvernance, de bonne gouvernance, tous les principes du développement durable, la visibilité, disons que la porte s'est un petit peu ouverte et que les élus se sont engouffrés à travers les réseaux internationaux. Juste pour rappeler que c'est important, ça paraît un peu toujours compliqué pour des élus de se déplacer à l'international, mais c'est un élément important parce que sans vous présents, les techniciens que nous sommes derrière, on ne peut pas arriver à grand chose. Et que, de la même façon, les ministres qui sont présents, s'ils ne vous voient pas, ils ne vous considèrent pas non plus dans les éléments de langage qu'ils ont. On a beau essayer de les influencer par le biais technique, c'est une relation politique est toujours plus forte. Donc, continuez cette pression. Et évidemment, on est là pour parler de la coopération décentralisée dans ce rôle sur l'influence dans les politiques climat. C'est un élément essentiel aussi. Pourquoi ? Parce que au-delà du discours général sur la solidarité entre les continents, sur les enjeux et les défis qui sont communs, il y a effectivement toute une tranche dans la chaîne du financement des projets de développement des territoires, notamment ce qu'on appelle le readiness, donc vraiment le tout début de la réflexion, de la transformation de l'idée de projet à une fiche projet qui soit présentable vers des acteurs du financement, et Florent vient de le présenter avec le travail d'Expertise France. C'est un élément essentiel. les pays, dans les pays du Sud, la décentralisation est un mouvement complexe. Les capacités des administrations, notamment dans les villes intermédiaires et plus petites, ne sont pas au niveau pour, quand je dis au niveau, hein, c'est pas une question de compétences seulement, c'est une question de temps et de disponibilité. Elles n'ont pas les moyens de rédiger les fiches projets, de s'intéresser aux acteurs du financement qui sont susceptibles de les financer. Et donc ça, ce transfert de compétences, il est essentiel dans ce travail sur le financement, dans le cadre des coopérations décentralisées. Juste pour dire, de manière générale aujourd'hui, comment on se situe dans le cadre des négociations de la COP, mais plus généralement sur le positionnement des collectivités. On est à un moment stratégique aujourd'hui. Il y a une mobilisation de plus en plus forte des pays du Sud qui s'organise, parce que vous le savez, la mondialisation a fait que les blocs sont plus aussi unis qu'auparavant et bifrontaux. Donc les pays du Sud s'organisent de plus en plus sur des revendications fortes sur la réforme de l'architecture du financement international. Dans ce cadre-là, les collectivités n'apparaissent pas du tout, hein. La dimension du financement de l'urbain, l'urbain étant la question clé de l'avenir, à la fois pour les défis, les problématiques, les opportunités, mais ça n'apparaît quasiment pas. Ça apparaît parce que les banques de développement ont des obligations de plus en plus fortes sur le verdissement de leur financement, et que la dimension des infrastructures urbaines est évidemment une énorme part de leurs investissements. Mais on reste très en deçà de la connexion, comme je disais au tout début, entre ce qui se passe à l'international et ce qui se passe au niveau national. C'est-à-dire que les banques nationales et ce qu'on appelle les banques des territoires, les banques infranationales de développement, aujourd'hui ne participent que très peu dans ces instances-là, et donc ne sont pas visibles. En gros, c'est la Banque mondiale, la BEI qui discutent avec leurs pairs au niveau des grandes conférences. Et pendant longtemps, malgré le fait qu'elles ont soutenu des banques nationales et des banques infranationales, elles n'en faisaient pas cas, et elles ne faisaient pas cas surtout des besoins de ces acteurs-là, qui sont les premiers acteurs qui vont financer les actions des collectivités. On parle beaucoup d'accès direct des collectivités au fonds vert pour le climat, au GEF, etc. Ça n'est pas une réalité pour les 99,9% des collectivités au niveau mondial. La chaîne du financement, elle est surtout au niveau national pour financer les projets. Donc le travail sur l'ingénierie du financement au niveau national, c'est un élément essentiel. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une maturité du marché du financement de l'urbain, du côté à la fois des investisseurs privés et surtout des banques de publiques de développement au niveau international, pour reconnaître la valeur de l'accompagnement de ces acteurs, comme le GECOM, la Convention des maires, est un peu le reflet de tout ça, même si dans les signataires, vous retrouvez beaucoup, surtout de villes des pays du Nord. On reste dans un appétit, une volonté d'approcher ce marché-là, ces collectivités, mais avec les complexités du niveau national sur les réglementations et les possibilités d'action. Donc, de plus en plus, on se dirige vers ce qu'on appelle des plateformes pays, c'est-à-dire des contrats pays, des actions pays, où les acteurs se regroupent de plus en plus pour avoir un travail sur d'influence, à la fois au niveau ministériel, comme le disait Florent, mais aussi au niveau d'accompagnement des acteurs nationaux, à la fois avec des garanties, puis de l'aide technique, et la mise à disposition de fonds qui permettront ensuite à ces acteurs-là de dessiner des systèmes de financement qui soient adaptés aux capacités d'absorption et de remboursement des collectivités en fonction des instruments financiers utilisés. On retrouve aussi un énorme travail de plus en plus fort sur le renforcement des capacités, donc le renforcement des ressources humaines. Nous, dans le cadre des propositions du plaidoyer et de l'institutionnalisation des schémas de financement des collectivités, on propose notamment la mise en place de FinHub, de hub d'expertise financière qui soit lié à ces stratégies au niveau national redéfinies sur le financement de l'urbanisation à travers les plateformes pays. Parce qu'on a besoin du renforcement de ces capacités, on a besoin de faire émerger des pipelines de projets qui soient non pas seulement bancables mais au moins finançables, parce que comme je le dis toujours, il n'y a pas de limite à l'ingénierie financière. La question, c'est de crédibiliser les acteurs qui portent les projets, et les collectivités du Sud sont très peu crédibles au niveau international et même au niveau national pour de bonnes et de très mauvaises raisons, qui est que, en général, les gens qui sont formés dans la chaîne de valeur du financement au niveau international, au niveau national, sont pas des acteurs qui sont spécialisés sur la question du financement des collectivités, parce qu'il n'y a pas d'historique. Donc, s'il n'y a pas d'historique, très rarement, on met des moyens pour s'y intéresser. Et donc, les acteurs de l'international, les banques publiques internationales, mettent de plus en plus l'accent sur ces questions-là et, du coup, influencent positivement cette réception des pipelines de projets issus des collectivités au niveau national. Et enfin, le dernier point qui est un point important, c'est la mobilisation du financement privé, puisqu'on sait que le financement public n'est pas suffisant. La question de la mobilisation à la fois des financements au niveau très local, des ménages, des PME, donc de l'intégration dans leur propre développement du financement du changement, ce sont des éléments sur lesquels les collectivités sont encore trop peu avancées dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord. Et ça, c'est un vrai travail aussi que la coopération décentralisée, dont la coopération pourrait se charger de développer. Parce que on a besoin de cette mobilisation et on a besoin d'avancer sur les nouveaux formats de partenariat public-privé avec un contrôle plus grand du public sur cette contractualisation. Juste rappeler que effectivement, donc l'année prochaine, il y a plusieurs événements importants. Il y a le Forum mondial du développement économique local qui aura lieu à Séville du 1er au 4 avril. C'est un moment important parce que ce sera un moment de relance de la dynamique. C'est un événement co-organisé avec entre le PNUD, le CDE, CGLU, le FMDV et d'autres que j'oublie. La ville de Séville, etc. Le gouvernement espagnol soutient la dynamique, donc il y aura beaucoup de délégations de pays du Sud qui seront présents. Donc ce sera un moment important parce qu'on de la même manière qu'au niveau onusien, on n'a pas d'espace pour discuter du financement de l'urbanisation, on n'a pas d'espace non plus pour parler du développement économique local et de tout ce que ça implique comme opportunité, évidemment, de ressources. On aura en juin à Séville, fin juin, la conférence du financement sur le développement. Qui est une conférence importante parce que historiquement, dans le cycle de négociation 2015-2016 qui a rénové complètement l'agenda global de mobilisation sur le développement durable, donc les ODD, l'accord de Paris et le nouvel agenda urbain, FFD3 à Addis Abeba a été la première conférence qui a ouvert et du coup qui a un peu été éclipsée par les autres conférences, mais on a un article 34 On a un article 34 qui était révolutionnaire à l'époque et qui a engagé les États signataires de la conférence sur le fait de mettre à disposition le cadre réglementaire pour l'endettement possible des collectivités, leur accès au marché des capitaux, etc. Ça n'a pas été suivi d'effet, très peu. Et donc 10 ans après, cette conférence, ça va être importante pour remettre, mais aujourd'hui on n'est pas dans la même réalité, hein. Aujourd'hui l'urbain existe, le financement de l'urbain est une vraie question et un vrai sujet, et donc c'est important également qu'on se mobilise politiquement, ça aura lieu en Europe, donc pour les coopérations européennes ça va être intéressant d'être présent et de porter des messages forts. Pour UNOC, effectivement, le lancement de la coalition, il y a un groupe de travail qui va travailler sur le financement de l'adaptation et de la résilience qui va être lancé la semaine prochaine et qui du coup, d'ici le lancement de la coalition le 7 juin de l'année prochaine, va dessiner un plan de travail. Et je voudrais juste terminer en saluant dans la salle Anthony Berthelot, qui est, levez la main, qu'on vous voit tous, qui est le coprésident du conseil politique de CGLU sur le financement et l'économie. Et donc c'est important aussi de continuer à travailler et alimenter le travail de CGLU, la prise de position de l'Organisation mondiale sur ces questions-là, parce que c'est aussi ce qui cadre notre plaidoyer à l'international. Juste dire que Bakou, c'est quand même intéressant parce que, comme en fait, plus les pays qui organisent les COP sont, disons, compliqués au niveau institutionnel, plus on a d'avancées, curieusement. C'est-à-dire qu'ils doivent laver plus blanc. Donc, il y aura quand même 3 avancées majeures cette COP. Il y aura la création d'un envoyé spécial du développement urbain. Il y aura la mise en place d'une coalition de continuum entre les présidences des COP sur la question des avancées sur l'urbain. Et il y aura le lancement, une déclaration coopération des banques de public de développement avec les agences de l'ONU sur la question du financement du développement urbain et un programme nouveau, une initiative nouvelle que Bakou va lancer, enfin que l'Azerbaïdjan va lancer sur les différents secteurs de l'urbain et le soutien technique à leur développement. Donc ce sera une COP importante. Évidemment, tout le monde regarde le Brésil, mais il y aura des avancées institutionnelles fortes pour nous. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur De Freitas. Oui, cette intervention clôt en quelque sorte ce panorama, ce florilège de différents types d'actions d'investissement à différentes échelles, que ce soit de la collectivité jusqu'à l'action en coalition, du local jusqu'au global. Alors on va empiéter un petit peu sur la pause café si ça vous dérange pas, mais ça m'intéressait quand même de vous permettre d'avoir quelques minutes pour d'éventuelles réactions, d'éventuelles questions. On profite d'avoir un panel assez riche, donc le micro va tourner. Et si quelqu'un a une question, une réflexion, on ne pourra pas en prendre beaucoup, mais prenons-en quelques-unes et bon, on aura un café un peu plus rapide. On a une demi-heure avant la plénière de toute façon.
Merci, bonjour. Marie-Pierre Bresson, adjointe au maire de Lille, en charge de la coopération décentralisée de la culture et du tourisme. Et je voudrais revenir sur... En fait, ce qu'on vient d'évoquer sur la question des financements, parce que c'est un sujet majeur, évidemment, dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ça fait 15 ans que je suis l'élue à la coopération. Je suis une élue écologiste de la ville de Lille et je suis depuis 15 ans en lien avec une ville très importante qui est celle de Saint-Louis du Sénégal, qui est une ville jumelle de Lille depuis très longtemps et qui souffre de l'érosion côtière depuis toujours, en vérité. Et on voit à l'œil nu, je me souviens d'être allée avec Pascal Canfin, quand j'étais alors la présidente du groupe Pays Sénégal, au Sénégal, et on voit à l'œil nu, en fait, l'érosion côtière. C'est-à-dire que tous les ans, tous les deux ans, il y a 50 mètres de littoral qui recule. 50 mètres de littoral, ça veut dire qu'il y a une partie de la ville de Saint-Louis qui est protégée par une langue de terre très fragile qui est menacée d'érosion. Et derrière, il y a une ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité et accessoirement 500 000 habitants qui sont très directement menacés. C'est-à-dire que quant à Lille, à la métropole de Lille, on a élaboré le plan climat. Il y a donc plus de 15 ans maintenant, on a fait venir le maire de Saint-Louis. Parce qu'à Lille, on disait, ouais, bah, si ça réchauffe un peu, c'est pas mal, il y a 15 ans. Là, aujourd'hui, on pense plus du tout la même chose, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va très vite, le changement. C'est ça se voit à l'échelle humaine, ce qu'on perçoit pas forcément. Alors là, on voit les grosses catastrophes, etc., qui nous tombent dessus. On a l'impression que ça nous tombe dessus. Pas du tout. Ça ne nous tombe pas dessus. Ce que je voudrais dire par là, c'est que cette implication des collectivités locales, elle est évidemment très importante. Alors, on bénéficie aujourd'hui d'expertise, évidemment. Ce qui nous manque, ce sont des indicateurs très très précis, et je voudrais saluer ce qui a été dit là, parce que en fait on est un peu au doigt mouillé parfois sur la question de la coopération et sur la question de qu'est-ce qu'on doit faire. On a l'impression qu'on fait des trucs super bien, sauf que voilà, quels sont les indicateurs? Je rappelle que la trajectoire qu'on devrait avoir, nous, c'est celle du Covid, c'est-à-dire qu'on devrait avoir, pour respecter les accords de Paris, une consommation, une production d'énergie qui soit l'équivalent de ce qu'on a vécu quand le monde était fermé. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Donc on voit bien que les indicateurs sont absolument nécessaires. Je le dis parce que on peut aussi, dans nos collectivités, et nous l'avons fait à Lille, on peut développer des outils de financement qui sont des vrais outils et qui permettent d'avoir aussi une gouvernance. On a beaucoup parlé du 1% eau, du 1% énergie, du 1% déchets. Très bien. Quand on fait ça... Et je le dis parce qu'on en a beaucoup parlé avec les Sénégalais, en fait, il y a un risque, c'est de livrer des territoires aussi à des grandes multinationales qui s'emparent de ces sujets. À Lille, on a inclus dans nos marchés publics une clause de coopération décentralisée. On a inclus dans le marché public de l'énergie, dans le marché public du chauffage, une clause de coopération décentralisée, 2% du marché, ce qui nous a permis, par exemple, pour le territoire de Saint-Louis, de prévoir l'éclairage de la ville avec 500 000 euros qu'on n'aurait pas eu dans le budget municipal, qu'on n'a pas en termes d'investissement, mais qui a été fourni par l'opérateur. Et avec un double effet qui était, je le dis parce que ça fait partie des outils innovants du financement et il faut en parler, qui a eu un double effet qui était d'une part pour l'entreprise qui a fait, donc en l'occurrence Ineos Citeo, en fait de comprendre ce que c'est que de travailler dans la sobriété. parce que on a une débauche parfois technologique sur les territoires qui sont les nôtres. Et en vérité, quand on travaille au Sénégal, il faut quand même comprendre ce que c'est que la sobriété, notamment dans les, en termes d'équipement, etc. Et puis le deuxième élément, c'est qu'avec 500 000 euros à Saint-Louis du Sénégal, on fait 120 km d'éclairage public. Avec 500 000 euros en France, on fait 4 km d'éclairage public. Voilà. Donc ça donne aussi une idée de ce que c'est que la réciprocité. Enfin, Léonore en parlait tout à l'heure, et je crois que c'est très important de montrer des perspectives comme ça. Tout ça pour dire que, en fait, dans la coopération décentralisée, on a la possibilité d'avoir un outil d'innovation territoriale, en fait, qui profite aussi à nos collectivités. Et donc, je voudrais insister là-dessus. Et quand je reparlais de cet outil de clause de coopération, en fait, c'est le maire de Saint-Louis et c'est le maire de Lille qui décide de ce qu'ils vont faire avec cet argent. Et ça n'est pas une grande multinationale qui creuse, qui produit de voilà, et dont on ne sait pas après quelle est la gouvernance derrière. Voilà, je tenais à le signaler. Puis j'avais un dernier mot à dire, vous l'aurez compris. On a parlé de l'océan, de la montée des océans, etc. Je me permets de lancer un appel. Nous sommes quelques collectivités ici à soutenir SOS Méditerranée, parce que dans l'océan, il y a aussi des gens qui meurent. Et pour avoir écouté ce que vous avez dit, je regrette que les élus de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne soient pas présents, mais eux ne financent pas les gens qui vont sauver les vies en mer. Je sais, Marseille, Poitiers, Nantes, Lille, Grenoble, enfin, on est quelques-uns ici à le faire. Voilà, j'insiste aussi sur le fait que dans la Méditerranée et dans l'océan, il y a aussi des gens qui meurent.
Merci beaucoup. Ah, je vois une autre.
Bonjour, Anthony Berthelot, je suis vice-président à Nantes Métropole et comme j'ai été cité, je vais prendre un petit peu la parole, mais pas sans être trop long. Juste pour dire, au sein de CGLU, alors c'est vrai que c'est une grosse instance que tout le monde ne connaît pas forcément, qui est vraiment l'union des collectivités et des gouvernements locaux. À l'intérieur, il y a deux champs d'action, comme il a été cité là, une volonté de prendre en compte toutes les expériences et expertises qui existent sur les territoires et à travers le monde. Donc là, il y a un exemple qui est donné. Le but, c'est de fédérer vraiment toutes ces expériences pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Et puis, de l'autre côté, d'agir vraiment de façon mondiale en termes de plaidoyer et d'action à deux niveaux, je dirais, pour vraiment être synthétique, sur la question du multilatéralisme, c'est-à-dire que le développement économique, enfin le développement politique et l'action ne peut pas se faire seulement par des décisions d'État. On voit bien que pendant la crise Covid, la résolution et la solution à nos difficultés s'est faite au niveau des territoires, des villes, des gouvernements locaux. Et donc, c'est de porter cette parole auprès des instances et des États. Donc, j'invite chacun et chacune, à travers tous ces réseaux d'élus, de pouvoir agir auprès des instances de tous les pays. Et donc, il y a à la fois cette question de gouvernance mondiale, le multilatéralisme, et à la fois la question des financements. Au dernier conseil mondial à La Haye, il y a à peu près 3 semaines, c'était un sujet majeur de nos échanges. On voit qu'il y a des expériences locales de financement à travers les coopérations décentralisées, mais il y a un manque criant de financement pour franchir l'étape supplémentaire. Quand on voit ce qui a été annoncé au bilan de la réalisation des ODD à New York au mois de juin dernier, on est loin du résultat et loin du compte pour 2030. Et alors que la solution, on sait qu'au niveau des collectivités locales, on a une solution très forte pour à la fois atteindre ces objectifs en termes de climat, mais aussi en termes d'égalité et de justice sociale. Et donc, tous ces financements qui sont disponibles, mais seulement à la main des États, c'est ça le problème, à la main des États, ne sont pas disponibles auprès notamment des villes du Sud global, qui dépend pour beaucoup de nos coopérations, de nos actions entre nos villes du Nord et le Sud global, alors qu'il y a des moyens encore plus forts qui permettraient une autonomisation de ces territoires et non pas d'avoir une dépendance non plus entre le Nord global et le Sud global. Donc pour vous dire qu'il y a des gros plaidoyers, moi j'invite chacun aussi à rejoindre ces réseaux, c'est pas forcément simple, hein, mais j'invite vraiment à rejoindre ces réseaux parce qu'il a grossi à travers le temps et plus nous serons nombreux à l'intérieur de ces instances, plus nous pourrons porter une parole commune. Et j'invite tous ceux qui peuvent justement à cette réunion extrêmement importante à Séville, ces deux réunions à Séville au mois d'avril et au mois de fin juin, début juillet, justement pour parler des financements mondiaux. Merci.
Merci beaucoup. Alors, on va prendre, il y a deux dernières déjà prises de parole. Et ouais. Voilà, ce sera vous, monsieur.
Donc,
et,
bonjour,
ensuite,
donc,
et ensuite, un point d'information. Je vous donne déjà le micro, comme ça on pourra enchaîner sur les deux.
Donc Nizar Yaïch de Liane Coopération, le RRM des Hauts-de-France. Juste se rappeler aussi qu'il y a 2 ans au RICT, on avait déjà un atelier sur à peu près le même sujet. Et je me rappelle les questions qui étaient posées. On était aussi avec l'association pour le bilan carbone et on se disait déjà à l'époque qu'on savait pas forcément mesurer autrement qu'au doigt mouillé, comme l'a dit Marie-Pierre Bresson, l'impact des coopérations. Et je pense qu'il y a vraiment un chantier là-dessus. Et je serais très intéressé s'il y avait des collectivités qui avaient une expérience particulière sur ce sujet de recherche, de travail méthodologique, en tout cas pour pouvoir le partager avec d'autres qui se posent des questions là-dessus. Et également, il y avait un deuxième sujet qu'on avait abordé et que j'ai moins entendu aujourd'hui, mais que je voulais nous rappeler collectivement, c'est celui du lien avec les plans climat, air, énergie, territoriaux qui se mettent en place, qui sont une obligation légale qui se met en place progressivement selon à l'échelle des intercommunalités, des EPCI, avec grosso modo dans tous les plans que j'ai pu observer, 3 logiques. La logique qui était d'abord de réduire la consommation d'énergie ou en tout cas tout ce qui est mis en place au niveau territorial. Une deuxième logique est d'avoir une transition sur les modes les sources d'énergie, pas sur les énergies renouvelables, etc. Et puis une troisième qui arrive, et je dis bien troisième dans l'ordre, qui est celle de la compensation. Et on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui. Et moi, j'aurais bien aimé pouvoir avoir un peu d'éléments sur où en est aujourd'hui la compensation, le marché de la compensation, où on en est aussi au niveau des instances mondiales dessus. Parce que soit on peut le prendre de manière très positive en se disant, bah tiens, voilà, il y a un enjeu de justice climatique, et puis avec 1 euro, enfin ce que Marie-Pierre Bresson disait tout à l'heure, avec 500 000 euros, on fait beaucoup plus au Sénégal que ce qu'on fait dans la campagne autour de chez nous. Et on peut faire aussi des choses, voilà, il y a un enjeu de justice, il y a un enjeu, voilà, et on va le travailler bien. Soit on va se retrouver avec aussi des collectivités, des GIP qui vont se mettre en place au niveau des collectivités, qui vont vouloir compenser dans des projets dont on ne connaît pas très bien la finalité, dont on ne connaît pas très bien l'impact, parce que je le redis, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment mesurer l'impact à long terme, en tout cas des questions de compensation, et je pense qu'il y a vraiment un sujet de travail à creuser pour l'ensemble des collectivités ici collectivement. Merci.
Merci beaucoup. Mais je vais pouvoir en parler un tout petit peu dans quelques secondes, mais d'abord une dernière intervention, Madame Rubirola.
Non, mais c'est juste un petit point d'information dans le cadre des échéances de 2025. Je voulais vous dire que Marseille, donc, aura la chance et l'honneur d'accueillir le sommet de Climate Change, donc les 31 mars et 1er avril. Alors c'est vrai qu'on se rend compte qu'au niveau international et dans les enceintes multilatérales, il manque un peu un espace de dialogue et d'échange sur ces enjeux d'adaptation dont on a parlé, et ça sera aussi l'occasion d'en parler puisque Marseille, ville côtière, justement, a tous ces enjeux-là à réfléchir et à porter. Et ça sera aussi un point d'étape au niveau de la COP30, puisque nous, avec Marseille, on entend faire un plaidoyer qu'on va élaborer avec les citoyens, apporter le plaidoyer de Marseille peut-être, voilà, pour la COP30. Voilà. Donc on vous invite le 31 mars et 1er avril à Marseille.
Merci beaucoup. Ce qui nous amène alors à la toute dernière section, donc merci de continuer à durer, à une dernière micro-intervention et ensuite il faudra qu'on... Vas-y monsieur.
Merci beaucoup, je suis André Zogo du Partenariat National de l'Eau du Bénin. J'ai juste une petite question pour les panélistes. C'est que dans l'ensemble des présentations, on a vu ce que les différentes structures font avec les collectivités territoriales. Mais ce qu'on a vu moins, c'est ce qu'elles font avec les fêtières des communes, les fêtières des collectivités territoriales. Alors, je voulais poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait spécifiquement en direction de ces fêtières qui peuvent constituer un outil technique, n'est-ce pas, d'accompagnement des communes? Merci.
Merci. Est-ce qu'en quelques secondes, quelqu'un veut se lancer ou est-ce qu'on porte la... Ah, merci. 30
secondes. En 30 secondes, alors. Hein, pour nous, les fêtières de maires sont évidemment un acteur très important. Donc les associations de maires nationales sont des acteurs très importants qu'on a... beaucoup pris en compte et beaucoup mobilisé sur les questions de plaidoyer au niveau national, puisque c'est vraiment leur rôle. Enfin, c'est en tout cas dans le fait de porter la parole des collectivités auprès du niveau national et de faciliter l'accès au financement, c'est évidemment un acteur qui est très très important et qui peut être accompagné aussi pour structurer son action.
Voilà. Merci beaucoup et je vous invite évidemment à continuer la discussion, notamment à la pause café. Alors d'abord, merci à toutes et à tous de privilégier la poursuite de cet échange au café. On va je voulais juste aborder très rapidement, et ça va permettre de faire le lien avec ces questions justement de quantification carbone, de l'impact de l'action internationale des collectivités territoriales. Certains et certaines d'entre vous qui étaient peut-être déjà à d'autres événements portés avec Cités Unies France sont déjà au courant de cela, mais bon, je passe déjà au point 2 d'abord. Il y avait eu ce travail notamment mené par le Grand Poitiers avec dans le cadre d'une FICOL, dans le cadre d'un partenariat avec l'AFD, du développement d'outils pour aider à la quantification de l'impact carbone de l'action internationale, des projets, et aussi d'avancer vers les questions de compensation, de contribution carbone, voilà, pour éviter justement d'aller vers un travail d'achat, de greenwashing tout simplement, pour creuser vraiment sur ce qui peut passer comme à travers l'action internationale et collectivités territoriales comme vrai impact positif au-delà seulement de compensation un petit peu comptable. Un outil en est né, trois fichiers en fait, et je vais pas le présenter évidemment là, mais c'est pour vous dire que cet outil avec deux fichiers Excel et un PDF est disponible. La ville de Poitiers l'a et l'utilise, et nous avons nous aussi au sein de Cités Unies France, à travers cette mission climat, le rôle de participer à son partage, sachant que l'outil lui-même est encore en évolution, et c'est en cours de travail avec l'AFD toujours, pour justement le rendre plus interactif aussi. Mais donc il y a déjà un outil, vous pouvez dès aujourd'hui l'utiliser. Certaines collectivités ont déjà été bêta-testeuses d'ailleurs de l'outil, donc ont déjà utilisé ces outils-là. Et j'en profite pour un dernier point sur, c'était le premier, mais pour le dispositif d'école que Cités Unies France met en place pour aider, faciliter l'accès à l'ingénierie, notamment à travers du cofinancement et du portage d'expertise externe. Et il faut savoir que on a étendu lors des 10e et 11e appels, et le 11e appel est ouvert depuis hier. Donc les collectivités territoriales peuvent dès aujourd'hui jusqu'au 3 décembre candidater à ce dispositif pour avoir accès à cette expertise externe cofinancée et portée par Cités Unies France. Il y a un type d'appui que vous pouvez demander, qui est sur l'appui à la prise en compte des enjeux climatiques dans l'ICT. Ça peut être à travers cet outil, ça peut être pour accompagner des bilans carbone, ça peut être pour accompagner une réflexion plus stratégique, mais cet outil est aussi là pour ça, modestement évidemment, et évolutif bien sûr, vos retours sont utiles pour ça. Mais donc voilà, ça fait partie des outils mis en place, à la fois pour avoir l'ingénierie, pour faire ce genre de travail axé sur le regard sur l'impact de l'action internationale et le regard de l'impact à travers l'action internationale sur les questions climatiques, et l'outil est donc à disposition. Et sur ce, je vais tendre le micro à Madame Léonore Monconduit pour un petit mot de clôture. Merci beaucoup.
Rassurez-vous, je vais être très très courte. Merci beaucoup d'abord pour toutes ces présentations. J'ai trouvé la table ronde de ce matin vraiment très intéressante, à la fois d'un point de vue...
Micro, pardon.
Merci pour toutes les interventions. J'ai trouvé la table ronde de ce matin réellement intéressante, et techniquement et intellectuellement. Donc merci beaucoup pour ces présentations et pour ces échanges. Je crois que les différentes interventions et à la fois les questions nous tendent à aller autant que possible vers du concret et de l'opérationnel. Et donc voilà, je pense que plus ces interventions pourront nourrir concrètement nos approches, eh bien mieux ce sera. Je ne peux qu'insister sur le fait que nous avons avancé quand même depuis 4 ans sur la question des outils concrets, et qu'effectivement nous nous tenons à la disposition de toutes les collectivités ou réseaux pour partager l'outil qui permet de mesurer l'impact carbone, de le réduire et de contribuer à le compenser autant que possible. Mais c'est aussi un outil d'aide à la décision à une période où on arrive à la fin des mandatures, par exemple pour les communes, pour les intercos. Comment est-ce qu'on peut construire différemment les politiques que nous porterons pour la suite? Donc on a vraiment, voilà, on a cette mission de diffusion, de partage, de formation. N'hésitez pas à vous en saisir. Et donc, voilà, la mission climat reste à votre disposition, ainsi que les équipes, largement appuyées par les équipes de CUF. Et merci beaucoup pour votre participation et pour les échanges de ce matin.